If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Juste un droit.
Hey ! Si je devais refaire ma vie, je serais chef d'orchestre.
J'ai 40 ans, une petite fille, et je vais refaire ma vie avec ma femme. Regarde cet homme, Séverine ! Ça s'appelle un nouveau Patrick !
On les appelle les sortants. Chaque année en France, 80 000 personnes sortent de prison, avec deux itinéraires possibles, la récidive ou la réinsertion sociale. Vous écoutez Juste un droit, je suis Romain Gouloumès et aujourd'hui on parle de l'après-prison. Retrouver un emploi, un logement, déclarer ses revenus en ligne, quand on a passé une partie de sa vie entre quatre murs, reprendre le chemin du métro, boulot, dodo, n'a rien d'une promenade de santé. D'ailleurs, après une peine d'enfermement sans aménagement, 63% des sortants récidivent dans les 5 ans. Voilà qui fait réfléchir. 1. Sur la capacité de la prison à réinsérer ses détenus. 2. Sur l'accueil réservé par notre société à tous les détenteurs d'un casier judiciaire dont le souhait est de retrouver leur place et un quotidien normal. Les deux points sont améliorables et Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, le sait. Projet titanesque de modernisation de l'appareil judiciaire, la loi de programmation de la justice promet de redonner des perspectives aux hommes et aux femmes passés par la case prison. Alors il est question de détenus mieux formés, mieux préparés à la réinsertion, à condition bien sûr que le budget suive. Je n'ai fait qu'effleurer la surface du problème, mais on voit déjà que le parcours post-carcéral n'est pas sans poser un certain nombre de questions que je réserve toutes à mes trois invités du jour. Nathalie Vallée, Papa Théodorou, on commence avec vous. Vous êtes travailleuse sociale auprès de détenus en aménagement de peine et sortant détention. Vous faites également partie du conseil d'administration de l'OIP, autrement dit l'Observatoire international des prisons. Bonjour Nathalie Vallée, Papa Théodorou, et bienvenue dans Juste un droit.
Bonjour.
Notre seconde voix parle d'expérience et a fait de sa réinsertion réussie un exemple inspirant. Ancien braqueur officiellement libre depuis le 10 octobre 2016, désormais écrivain et conférencier. Bonjour et bienvenue Laurent Jacquin.
Bonjour.
Je complète et j'achève ce tour de table avec notre spécialiste maison. Je parle bien sûr d'Hélène Sergent, journaliste au service police-justice de 20 minutes. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors on va commencer par se mettre en condition et en situation. On va dire que je sors de plusieurs années de prison. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'y ai été préparé, formé ? Est-ce que des ressources me sont attribuées ? Est-ce que je suis accompagné ? Alors, je suis conscient qu'il y a plusieurs questions en une. Est-ce qu'il y a un candidat pour y répondre ?
Le seul qui est parti en prison, c'est moi.
Ah bah, Laurent Jacquin, on voilà. Vous écoute.
Je vais vous répondre. Mais déjà, il y a un bémol. Déjà, dans la présentation, c'est-à-dire que réinsertion réussie, je ne dirais pas ça, pour ma part. C'est simplement, je me suis réadapté du mieux possible. Parce que la réinsertion, j'y crois pas du tout. Je crois plutôt au retour à la vie et au retour à un certain équilibre après un gros déséquilibre.
Ouais.
Ce qui n'est pas la même chose. Réinsertion, c'est quand même un mot générique qui fait partie du langage institutionnel.
Ouais, retour dans les rangs.
Voilà, mais ce n'est pas du tout ça. C'est lorsqu'on sort de prison, on essaye de se réadapter à la vie et on essaye de revivre. Et après, ça marche ou ça ne marche pas. La réinsertion dans la société, alors qu'elle nous rejette d'une certaine manière, un seul exemple.
On va y venir, on va l'aborder après, la question de la réinsertion.
Un seul exemple.
Ok.
Au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas le droit de vote. Voilà. Donc, je ne suis pas un citoyen totalement entier. Et par rapport à la réinsertion en elle-même, tout dépend du détenu et de la peine qu'il a faite.
Oui,
voilà.
Si on a fait 5 mois ou 5 ans ou 25 ans, c'est pas la même chose.
Ou 25 ans, c'est pas la même chose. Donc, comme on dit, il y a 70 000 prisonniers, il y a 70 000 façons de voir la prison différente et sa sortie différente.
Donc, je reprends ma question rapidement. Je sors de prison après une peine X, donc on va dire, on va pas fixer de durée. Est-ce que j'y étais préparé ?
La préparation, elle se fait en amont. Elle doit se faire en amont. Mais en général, le système n'a pas les moyens de pouvoir le faire par rapport au nombre des CIP, par rapport au nombre d'aides. Et aussi, malheureusement, il y a un turnover de 100 000 détenus par an. Donc ça sort, ça rentre, parce que la plus grosse partie des détenus, c'est des petites peines. Donc mettre en place un système de réadaptation sociale ou de réinsertion, c'est très difficile.
Nathalie Vallée, Papa Théodorou, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Laurent. Ça dépend aussi si on sort de maison d'arrêt, de centre de détention ou de maison centrale. Normalement, la préparation, elle doit se faire en amont. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de préparation en amont sur une maison d'arrêt. Il peut y en avoir en centre de détention, par exemple sur l'accès aux droits. On a des personnes qui sortent alors qu'on peut faire la carte d'identité ou refaire un titre de séjour en détention, qui ressort sans titre de séjour, sans carte d'identité. Si on n'a pas vos papiers, ben vous ne pouvez pas ouvrir vos droits à la Sécu, vous ne pouvez pas ouvrir vos droits au RSA et tous les droits qui vont avec. Donc les personnes, en fait, il y a un gros problème sur les personnes qui sortent en sortie sèche, sans aménagement, voilà.
Mais c'est surtout un problème de surpopulation pénale. C'est surtout une question de moyens. Il faut être réaliste. Dans une maison d'arrêt, quand ils sont 3 ou 2 par cellule et qu'il y a 5 CIP, c'est-à-dire des conseillers d'insertion et de probation, je veux dire, ils sont tellement sous l'eau qu'ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Donc, on est obligé de lâcher des gens qui se retrouvent finalement ou sans papier ou sans droit. Et le problème est au niveau de la surpopulation pénale et de l'étouffement du système. Maintenant, en centrale et en centre de détention, c'est une autre affaire. On a plus le temps de pouvoir mettre en place une réinsertion.
Alors, je veux bien juste qu'on fasse le distinguo centrale, centre de détention pour nos auditeurs.
Alors, maison d'arrêt, c'est ceux qui ne sont pas condamnés. C'est
prévenus et courte peine.
Et condamnés, et ceux qui sont en partance pour un centre de détention ou une centrale où les gens font leur peine en centrale ou en centre de détention.
Donc c'est des longues peines.
Super, c'est clair.
Voilà. Après, il y a le problème aussi de l'hébergement, parce qu'on estime au moins un quart des personnes qui sortent de détention qui n'ont pas d'hébergement. Voilà. Donc depuis 2011, il y a un guichet unique qui s'appelle le SIAO et qui est complètement engorgé parce qu'il faut que la demande elle se fasse de la détention. Et moi, par exemple, je reçois des demandes de 2018 ou 2017 en disant « cette personne va sortir dans 4 mois ». Elle est où ? Elle est déjà sortie.
Oui, mais...
Donc sortir sans hébergement, sans droit ouvert, sans pièce d'identité, sans rien, bah, qu'est-ce qui vous reste quoi ? C'est pour ça qu'il faut mettre en avant les aménagements de peine. Ça permet aussi d'être un sas. Donc vous allez être accompagné par des travailleurs sociaux, parce que ça soit en bracelet, enfin en PSE ou en placement extérieur, vous êtes hébergé par une association, et là vous allez avoir un accompagnement. Un SPIP à l'extérieur, vous le voyez une fois par mois.
Donc SPIP, on le rappelle,
Service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Merci.
Voilà. Tandis que si vous avez une association qui vous prend en charge, je ne fais pas la promotion des associations, mais moi par exemple, j'en ai un qui est sorti il est sorti quand ? Le 8 juillet. Bon, il a plein d'angoisse, je le vois tous les jours. Même si c'est 5 minutes pour boire un café,
c'est
voilà.
Du lien social, par ailleurs.
C'est du lien social, je le vois tous les jours. Lui, tout seul, à l'extérieur, où personne ne l'a attendu, la société ne l'a pas attendu, il voit que c'est galère. Là, il faisait la queue à la CAF, et ben, il n'a pas tenu. Enfin, au bout d'une demi-heure, il m'a appelé en disant « je ne me sens pas bien voilà. ». Donc je lui ai dit « revenez, on ira à la CAF ensemble le lendemain ». Mais tout ça, ça ne peut pas être fait par le SPIP.
Ouais, je dirais, il y a un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est la pauvreté de la population pénale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre les années 80 et aujourd'hui, il y a une pépurisation de la population et les gens qui sont en prison, malheureusement, sont de plus en plus pauvres et sont beaucoup, beaucoup plus fragiles au niveau social et même psychologique qu'avant. Avant, dans les années 80, c'était des voyous, c'est vrai. C'était des gens, des professionnels du vol, c'était une autre population pénale. Aujourd'hui, elle a explosé avec un phénomène qui est lié à l'économie qui s'est écroulée et au phénomène de pauvreté en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on retrouve une population pénale qui a été obligée ou de dîner ou de voler pour pouvoir manger. Et à ces gens-là, on leur demande de trouver un travail et c'est souvent des chômeurs. Et je le dis toujours, quand on ferme une usine, on ouvre une prison. Donc, à partir du moment où il y a de plus en plus de pauvres, les gens commencent à voler, commencent à dealer, la délinquance augmente et c'est un parallèle qui est vraiment... Et donc, pour se sortir de ce truc-là, déjà, on est marqué parce que judiciairement, on est marqué, socialement, on est marqué, mais en plus de ça, il faut trouver un emploi, alors que le chômage a explosé. Il faut trouver un logement, alors que personne n'arrive à trouver de logement pour pouvoir... Donc, tous ces accumulations de phénomènes font que ben, on se retrouve avec une population hyper fragilisée qui se retrouve à demander à des services qui sont noyés sous les demandes, par exemple la CAF, par exemple la CMU, etc. Il y a vraiment un souci, quoi. On se retrouve à Pôle emploi en sortant de 10 ans de prison. Aucune chance, quoi.
Ne traînez pas, la banque vient d'ouvrir.
Vous ne pouvez pas faire la queue comme tout le monde?
Nous ne sommes pas tout le monde.
Si tu bouges, je tire.
Hé, les mômes.
Oui?
Tu me prêtes ton revolver une seconde?
Pourquoi faire?
Pour dévaliser une banque.
Mais est-ce qu'on peut justement nouer avec, renouer avec la réalité de la société? On parlait d'aller à la CAF, de payer les impôts, de retrouver un emploi. Tout à l'heure, on parlait d'un élément qui s'appelle en quelque sorte le choc carcéral. Quand on rentre en prison, est-ce qu'il peut y avoir l'équivalent à la sortie, une sorte de choc de libération? Comment ça se traduit concrètement s'il y a un choc de libération?
Moi, de ma place, puisque en fait, moi, j'accompagne des personnes qui sortent de détention, le premier jour, ça va être un jour un peu l'euphorie. Tout va bien, c'est le jour de la sortie. Et très rapidement, on va voir que pour avoir la Sécu, il faut attendre 4 mois. Pour avoir le RSA, moi là j'en ai un, il perd son dossier une fois, il perd son dossier une deuxième fois, il se déplace, il fait la queue. Là, ça devient, c'est problématique. S'inscrire à Pôle emploi, après moi je les accompagne dans toutes ces démarches. Donc je me dis, la personne qui les fait toute seule, sans accompagnement. Moi, la plupart des démarches qu'on peut faire sur Internet et dans mon bureau, s'ils n'ont pas à se déplacer, moi, j'évite au maximum qu'ils se... des moins de 25 ans, qui représentent une grosse partie des sortants, qui se retrouvent absolument sans ressources. Ou alors, maintenant, il y a une garantie jeune, mais avec tellement de contraintes que c'est hyper compliqué. Et donc, très rapidement, il y a craquage. Et moi, j'en ai qui me disent « je vais retourner en détention parce que c'était plus simple là-bas ». Parce qu'on ne vous demande pas de penser en détention. On vous dit quand on ouvre la porte, quand on la ferme, quand vous mangez. Et là, on leur demande d'aller à des rendez-vous. Mmh. En fait, c'est ce moment-là qu'il faut accompagner. Donc moi, ce que je fais, c'est que je leur dis, ma porte, elle est toujours ouverte. Si à un moment donné, vous craquez, vous quittez une file d'attente, vous venez me voir. Voilà. Et donc, il faut accompagner ce moment-là, parce que c'est un moment qui est difficile. Parce qu'en fait, ils ont aussi idéalisé la sortie. Ils pensaient que tout le monde les attendait, qu'ils allaient trouver un boulot facilement et qu'ils auraient accès à leurs droits plus rapidement. Quand là, moi, j'en ai un qui est sorti en aménagement de peine et en fait, il lui avait refusé sa permission de sortir pour refaire son titre de séjour. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a 40 ans, qui est arrivé en France à 3 ans. Donc, moi, j'ai saisi le préfet, j'ai écrit à Belloubet, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Le préfet a envoyé chier le défenseur des droits. Cette personne-là, elle a passé un an en placement extérieur, donc un an sous écrou. Là, ça fait 6 mois qu'elle est en libération conditionnelle et on vient d'avoir un rendez-vous. Là, ça fait 18 mois avec quelqu'un qui a quand même un passif de braquage, qui a toujours eu de l'argent. 18 mois qui tient avec rien, aucun droit ouvert, rien. Donc, est-ce que c'est ça la réinsertion? Non. Et du coup, dans ma dernière lettre au préfet, je lui ai écrit « la réinsertion est une chimère ». Et une semaine après, j'avais un rendez-vous. Donc, est-ce que c'est cette phrase magique? Mais j'en sais rien.
Bon, on la laisse à nos auditeurs. Si jamais vous devez écrire un jour à un préfet, n'hésitez pas à l'utiliser.
Il y a un autre point aussi, on en parlait tout à l'heure, sur les détenus qui ont des pathologies psychologiques aussi, sur la question de la rupture des soins. Pour des détenus qui ont des troubles bipolaires ou schizophréniques ou simplement des syndromes dépressifs,
de la population pénale,
ce qui est énorme, ce qui est une vraie problématique en détention. Il y a aussi un risque à la sortie de ce qu'on appelle la rupture de parcours de soins. Et il y a une initiative qui a été mise en place. Alors je sais que c'est une des rares initiatives en France, mais il y a une équipe de soignants à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne qui a mis en place une consultation qui s'appelle une consultation extracarcérale. Et en plus, qui s'adresse aussi aux proches des détenus, donc qui ont besoin d'un accompagnement.
Suite au traumatisme carcéral.
Voilà, et qui permet cet accompagnement psy auprès des sortants et qui marche plutôt bien, mais hélas, ça reste encore très rare, ce type de proposition.
Puis elle est menacée aussi.
Et en
parce
plus,
elle était reliée à la prison de la santé.
Avec
Cyril Canetti, qui est le psychiatre de la maison d'arrêt de la santé, à la fermeture de la santé. Donc, est-ce que ça va perdurer? Je sais que sur le 93, nous, on a créé à Ballanger, une unité post-carcérale à Ballanger. Donc, ils font les obligations de soins et tout le suivi. Après, il y a aussi toutes les personnes qui ont des problèmes d'addiction. Donc, souvent, ils sortent. Il n'y a pas d'ordonnance. On n'a pas donné le traitement ni pour la journée, ni pour la semaine. Ça veut dire que moi, j'ai eu des arrivées où, à 20h, il me dit « Je suis sous méthadone et je vais mal. » Donc, ça veut dire trouver un dépannage.
Mais il n'y a pas que ça, quoi.
Non, il n'y a pas que ça.
Je veux dire, les prisonniers, ce n'est pas des malades, quoi. Il faut arrêter. À un moment donné, c'est des citoyens. Il y en a qui arrivent à sortir, mais le choc face à la réalité, c'est aussi une espèce de rejet de la société aussi. Faut dire les choses. Ça veut dire que pour reconstruire sa vie et mettre en place un parcours de vie qui va aller dans le sens de la réinsertion, j'aime pas ce mot-là, mais dans le retour dans la société, on va dire, les choses ne sont pas faciles pour un détenu, qu'il soit petite peine ou longue peine. Petite peine, parce que le gros problème, c'est que c'est souvent des jeunes qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens et qui se retrouvent dans la cité avec les mêmes mecs et vont recommencer une fois. C'est bien ça. Au bout de 15 jours, ils n'ont plus d'oseille, même parfois au bout de 10 jours, et ils se retrouvent à dire mais comment je fais ? Comment je vais m'habiller ? Comment je vais manger ? Comment je vais me loger ? Bon, il n'y a pas 36 solutions, il ne va pas aller à l'usine. Voilà, c'est comme ça que la récidive, il n'y a pas de remise en question sur le mode de vie. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des problèmes psychologiques en prison de plus en plus, parce que avant, un malade psychiatrique n'entrait pas en prison. Aujourd'hui, on retrouve des psychopathes et des gens qui ne sont pas suivis, hein, parce qu'ils sont suivis une fois par mois par un espèce de psychologue qui est débordé par 2000 détenus. Donc, ça fait que tous ces facteurs font que, à la sortie, personne ne vous attend. J'ai toujours l'image, moi, d'un puzzle qui est complet, avec une pièce en plus, et on la pose dessus, où est ma place ? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je suis sorti. J'ai fait 25 ans de détention, j'étais à fond. La chance que j'ai eue, c'est qu'en vérité, ça dépend du détenu. Celui qui veut se arrêter, ne pas récidiver, il n'y a que lui qui peut le faire. Il ne faut pas compter sur les institutions ou sur quoi que ce soit. C'est sa volonté propre.
Oui, il ne sera pas aidé en quelque sorte par le contexte social ou par le reste de la société.
Il n'y a pas d'organisme assez fort, comme il y en a dans les pays nordiques. Il n'y a pas de volonté politique pour que ça se fasse. C'est un laisser-aller. Et après, on a la récidive qu'on mérite en France. Ça, il ne faut pas rêver. On a la récidive qu'on mérite. Ça veut dire qu'on ne prend pas soin de réinsérer les détenus de manière intelligente, de manière constructive et de mettre les moyens pour ça, on paye le prix derrière.
Hélène.
Oui, Nathalie, vous parliez sur le choc de la libération. Dans quelle mesure la prison, ça laisse des traces une fois qu'on est sorti ? Concrètement, ça se traduit comment ?
En fait, ça, comme disait Laurent, ça dépend des personnes. Alors, majoritairement, il y a quand même des choses qu'on repère chez les longues peines. Quand ils arrivent sur le service, donc ils arrivent, parce que c'est des longues peines, donc en fait, elles sont libérées en aménagement de peine.
Ils ne sont pas libérées sèchement.
Voilà.
Il y a une réadaptation.
Il y a une réadaptation. Moi, j'ai quand même aussi ceux qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus d'amis. Voilà. Moi, mon dernier, il a été incarcéré, il avait 17 ans. Il sort au bout de 35 ans. Donc, les exemples, c'est je l'installe. Le lendemain, je lui donne un rendez-vous pour le lendemain. Je le mets quand même dans un appartement qui est à proximité de mon bureau. Voilà. Et je ne le vois pas arriver le lendemain. Donc, tout de suite, je m'inquiète. En fait, il attendait que je vienne lui ouvrir la porte. Donc, en fait, en gros, au quotidien, ça a été réapprendre à traverser une route, apprendre à prendre les transports en commun, pour aller au SPIP, pour aller tout le quotidien. C'est gérer aussi les frustrations, parce qu'une fois, il n'avait pas son argent, je ne sais pas quoi, il y a eu un problème à la poste, voilà. Et du coup, il était dans mon bureau en disant « je vais appeler la police, je fais la grève de la faim ». Et il a fait une grève de la faim dans pas très longtemps. Mais il a fait, toutes ces armes de la détention. Donc, en fait, se désincarcérer, se désemmurer, c'est extrêmement compliqué. Comme par rapport, on parlait de la sexualité. Donc, c'est quelqu'un qui, du coup, voulait rencontrer une femme. Mais il est rentré, il a été incarcéré à 17 ans. Donc, qui draguait dans la rue ? des petites jeunes. Donc, moi, je l'avais inscrit au tédançon de la mairie. Et il est revenu en me disant, il n'y a que des vieilles. Donc voilà. Mais en fait, la réinsertion, c'est un truc, c'est global. C'est
C'est réapprendre à vivre, c'est ce que tu dis.
C'est réapprendre à vivre, parce que si on pense que d'avoir... Parce que j'ai des gens qui sont relogés, qui ont trouvé un travail en CDI. Mais si on pense que d'avoir un CDI et d'avoir un logement, ça fait de la réinsertion, on se gourre complètement. C'est retrouver l'envie de vivre, avoir des plaisirs. Et c'est ça qui va être le moteur.
Enfin, c'est quand même un cas particulier. Je veux dire... Vraiment un cas particulier dû au traumatisme carcéral que je comprends. Hein. Je veux dire, c'est pareil quand on sort de l'isolement. Moi, j'ai fait 50 quartiers d'isolement total. On sort de là, on a un coup, quoi. Je veux dire, on fonctionne plus normalement. Maintenant, il y a deux types plusieurs types de gens qui se défendent par rapport à ça. C'est aussi une question de volonté. Hein. C'est aussi une question de force. C'est vrai que l'impact et le traumatisme carcéral est hyper puissant. Quand on a fait des années, c'est sûr qu'on est marqué d'une manière ou d'une autre. Même moi, je le remarque dans ma façon de vivre, dans ma façon de fonctionner. Parfois, je laisse les lumières allumées, parfois, je laisse les robinets allumés parce que en prison, c'est des robinets à pression, parce que la lumière, on l'allume, on l'éteint comme on veut, parce qu'on n'a pas de soucis de paiement par rapport à l'électricité. Enfin, on est dans une espèce...
De bulles où
tout est géré pour nous. Ça fait que quand on doit reprendre la vie et gérer son argent, trouver un travail, rentrer, avoir des liens sociaux, etc. Je vais vous donner un exemple simple. Quand je suis sorti en 2016, ma conditionnelle a été terminée. Bon, donc 2010, je sors. Franchement, je n'ai pas eu de choc face à la société, puisque je me suis préparé pendant 4 ans à cette sortie. En fait, j'ai préparé moi-même, j'ai trouvé le boulot, j'ai passé un diplôme universitaire, j'ai écrit des bouquins, j'ai créé un blog, j'ai fait des choses pendant 4-5 ans. Pendant 20 ans, j'aurais mis le feu. Pendant 20 ans, j'ai essayé de m'évader. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait s'arrêter, il fallait s'évader de soi-même, il fallait s'évader de l'image dans laquelle j'étais, c'est-à-dire DPS, fichés au grand banditisme, etc. Il fallait sortir de ça pour pouvoir vivre dans la société. Donc ça, une fois qu'on l'a compris, j'ai réussi à avoir un enfant, un bébé parloir. Donc ça m'a permis d'avoir des motivations qui m'ont permis de pouvoir m'accrocher et m'ancrer dans la vie sociale. Si on n'a pas ça, et malheureusement... Des gens de centrales, j'ai fait Clairvaux, j'ai fait Saint-Maur, j'ai fait Moulin-Isère, j'ai fait les plus grosses centrales. J'ai vu des types sortir et qui n'avaient aucune attache à l'extérieur. C'est comme si on prenait un type qui vit dans la forêt et on le jette en plein milieu d'une ville. C'est exactement la même chose. Le choc va être tel qu'il ne va pas savoir comment fonctionnent les feux rouges, comment fonctionne la société, comment pensent les gens, pourquoi ils s'habillent comme ça, pourquoi. Je veux dire, on est dans un autre monde. C'est un univers complètement parallèle. Et donc le choc, j'ai vu des très longues peines, des types qui sont sortis de prison après plus de 30 ans et qui appelaient le directeur en disant « je veux revenir parce que dehors, j'ai plus de famille, j'ai plus rien, je suis dans une petite chambre de bonne, machin ». Et ce qu'il faut bien dire, c'est que la plupart de ces détenus qui sortent, se suicide à l'extérieur. Parce qu'on parle des suicides à l'intérieur des prisons, un tous les trois jours, il faut toujours le rappeler. Il n'y a aucune étude qui est faite sur les détenus qui se suicident ou qui se détruisent et qui se suicident aussi socialement. Ça veut dire qu'ils récidivent. Donc, de passer de l'un à l'autre comme ça, sans préparation, c'est ce qu'il y a de plus dramatique. Et la préparation, elle doit être faite par les institutions, elle doit être faite par des gens compétents et on ne l'a pas. Et il n'y a pas les moyens pour le faire. Et si jamais on avait la possibilité d'étudier vraiment ce phénomène, on se rendrait compte, déjà, la population pénale, il faudrait la réduire parce que ceux qui vont en prison, pour la plupart, si on enlève tous ceux qui sont prévenus, qui sont présumés innocents, si on enlève les petites peines de moins de 2 ans, si on enlève les malades psychiatriques, si on enlève les malades qui sont vraiment malades, si on enlève tout ça, on arrive à 20 000, 30 000 détenus en France. 20 000, 30 000 détenus. Les plus dangereux, c'est 5 000. Stop.
Moi, j'étais à 2000, mais...
Non, mais...
Oui.
Les plus dangereux par rapport à la population qui... je veux dire... Non, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est quand même ça. Ça veut dire que si on enlève tout ce poids qui écrase le système et qui fait enrayer la machine de réinsertion et de la justice... On allège largement la possibilité de pouvoir s'occuper. Et de toute façon, c'est l'aménagement de peine est la solution.
Alors, je vous coupe rapidement, hein, parce que à la fin de l'émission, je renverrai vers une émission qu'on a regardée tous les deux, Hélène. C'est votre one-man show, comme vous le décrivez, au TEDx en 2015, ouais. TEDx Paris. Et vous dites que, en gros, la prison rend foncièrement violent et, du coup, inadapté socialement.
Dr. Crane ?
Miss Doss.
Vous êtes réellement persuadé qu'un tueur à gages de la pègre n'a pas sa place en prison ?
D'accord. Bien entendu, voyons, sinon je n'aurais jamais témoigné dans ce sens.
Ah oui, mais je le dis, la prison est un cancer social. C'est une machine, c'est une usine qui fabrique la récidive. C'est un système qui est contre-productif pour la société et qui forme la récidive. Donc d'autres victimes de tous côtés, quoi, et qui coûtent de l'argent.
Oui, il me semble que l'OIP, avec d'autres associations, avait justement sorti un rapport qui disait que l'enfermement était la peine, en tout cas la moins efficace et la plus chère, effectivement, en termes de réinsertion derrière.
90 euros par jour.
Ouais. En fait, oui, c'est à peu près 100 euros qui est mis en détention. Et,
bracelet électronique, c'est...
10 euros par jour.
10 euros par jour, voilà.
Parce que, en gros, c'est vrai qu'on citait tout à l'heure le discours de Nicole Belloubet qu'elle a fait en mai 2019, où elle présentait un petit peu les ambitions de la loi de programmation de la justice, qui disait, en gros, on veut pousser l'aménagement de peine, la semi-liberté, ce genre de choses. Pour vous, est-ce que ça, c'est, enfin, on va le décrire un peu, afin qu'on comprenne bien justement ce que c'est que la semi-liberté. Mais pour vous, c'est la solution pour lutter contre la récidive aujourd'hui?
Non, mais...
Alors moi, peut-être pas la semi-liberté, puisque la semi-liberté, en fait, on rentre dormir soit en détention, soit dans un centre de semi-liberté. Mais je pense qu'au niveau de l'accompagnement, c'est pareil. Enfin, les centres de semi-liberté, ils sont surchargés. Il y a très peu de conseillers d'insertion et de probation. Enfin, ils ne peuvent pas recevoir tout le monde et faire un accompagnement. Donc voilà, moi, sur le placement sous surveillance électronique...
Le PSE.
Le PSE, c'est voilà. Ça. Du coup, non, mais
Vous avez bien fait.
Je suis assez mitigée. Je pense que ça convient à une certaine catégorie. Enfin, quelqu'un qui va être complètement inséré. Enfin, vous êtes sur une cité avec votre bracelet. Vous n'avez pas d'accompagnement. Vous voyez le SPIP une fois par mois. Il n'y a personne qui vous aide dans vos démarches. Puisque le SPIP, maintenant, les missions du SPIP, c'est lutter contre la récidive, l'évaluation de la dangerosité. Mais tout ce qui est de l'accès au droit, c'est pas ça. Donc, moi, j'en vois. Enfin, sur les cités à Sevran, ils sont sous PSE, parce qu'on sait qu'à 20h, de toute façon, tous ceux qui sont à la fenêtre, c'est parce qu'ils ne peuvent pas descendre.
C'est aussi une politique pénale, je veux dire.
Et que ça coûte rien, le bracelet. Alors qu'il y a d'autres aménagements de peine. Il y a la libération conditionnelle. Elle est sous-utilisée, et la libération conditionnelle, c'est un bon levier. Il y a le placement extérieur. En fait, le placement extérieur, les personnes sont dans une association sur un temps donné, le temps de la peine, et avec un accompagnement, l'hébergement, enfin, et un accompagnement global. Ça va être faire les échéanciers pour les dettes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui plombe la réinsertion. Comme là, cet après-midi, avant de venir, j'ai quelqu'un, c'est trafic de stup, bon, 5 ans de prison, 60 000 euros d'amende pécuniaire, et là, les douanes viennent tomber 1 million. Sincèrement, comment on peut se projeter aussi c'est des questions.
Mais
voilà.
Comment se construit
voilà.
Ça,
du coup, cet aménagement de peine, juste le placement, il y en a même pas 800 en France. Alors, ça coûte 35 euros à l'administration pénitentiaire. Donc, on trouve que c'est un peu trop cher. Donc, le bracelet est privilégié. Alors que c'est vraiment un accompagnement global et le placement est réservé aux personnes les plus fragiles. Donc celles qui n'ont pas forcément de soutien à l'extérieur, qui ont aussi des problèmes d'addiction, des tas de difficultés. C'est hyper dommageable, en fait, que ça ne soit plus pas utilisé. Et je voulais juste, parce qu'après je vais peut-être oublier, mais qu'en fait le terme de récidive, en fait ça commence à me fatiguer. Moi, quand je fais de la réinsertion, je ne parle pas de... Mon but, ce n'est pas de lutter contre la récidive. Ça, ce n'est pas mon problème. En fait, c'est de travailler avec la personne et j'aime mieux, et c'est beaucoup, ça leur est beaucoup plus parlant, de dire on va travailler la désistance, la sortie de la délinquance. Ça veut dire que là, j'en ai, peut-être qu'ils vont retourner en détention, mais c'est pas un échec. En fait, ce cheminement, ça veut dire qu'il peut y avoir des ruptures, à un moment donné, qui se barrent, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas dans ce chemin-là, quoi. Je trouve que c'est hyper important et que c'est, en tout cas pour moi, ça me permet de voir mon travail autrement.
Prendre plus de recul.
Et eux aussi, en fait, parce que j'en ai un qui est parti. Bon, c'était assez rude parce que, il est sorti hyper écorché vif, il est reparti en détention. La justice, et il était particulièrement surveillé par la justice. Et à la fin, quand il est parti, parce qu'il a été relogé, il me dit votre truc au début, j'y croyais pas trop. La sortie de la délinquance. Mais il me dit, ça marche. Bon, voilà.
La politique des petits pas. On vise loin, mais on avance pas à pas. Laurent Jacquat, la conditionnelle. Vous avez fait 6 ans, c'est ça
Moi, je suis sorti en conditionnelle. Mais là, on part du principe qu'on enferme 70 000 personnes. Je le répète, il faut arrêter d'incarcérer à tout va. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même des gilets jaunes prennent 4 points pour avoir jeté un caillou. Quoi. Je veux dire, on rentre dans un truc, ça fait partie des prisonniers aussi. Ça fait partie des gens qui se retrouvent parce qu'ils ont volé à manger, ils se retrouvent en prison aussi. Donc, la moindre contestation, on peut se retrouver en prison. Je veux dire, faut aussi se rendre compte que c'est ça aussi la politique pénale actuelle qui fait qu'on est à 70 000 prisonniers. Il y a quelques années, je disais qu'on serait à 80 000. Je suis pas loin, hein. Et on va arriver à 80 000. Bon, bref, la conditionnelle, oui, c'est un bon outil. Mais avant la conditionnelle, il faut éviter l'incarcération. Il y a des aménagements de peine et d'autres solutions pénales qui peuvent permettre d'alléger le système. Donc, on ne rend pas service à une personne en la mettant en prison dans un bain qui est complètement négatif et qui va augmenter ses difficultés, c'est-à-dire il va perdre son appartement, il va perdre son travail, il va perdre peut-être sa famille, il va perdre tous ses moyens, il ne va pas pouvoir. Maintenant, moi, je n'ai pas une vision condescendante du détenu, parce que c'est ma famille et je sais qui est en prison. Il faut arrêter de les prendre pour des malades mentaux, quoi. Il faut arrêter de les prendre pour des fatigués, parce qu'à un moment donné, ils sont dans une difficulté. Mais ils ne sont pas aidés, c'est ça le problème. C'est qu'en face d'eux, il y a des gens qui ne les aident pas et qui ne veulent pas, et il n'y a pas de volonté d'aider les détenus. Et même dans la population générale, la population pénale, elle est moins considérée que leurs chiens ou leurs animaux. Je veux dire, il faut bien comprendre qu'il y a aussi une espèce de façon de voir le détenu, moi, qui m'énerve à un moment donné, de nous prendre pour des pauvres petits détenus malheureux et qui sont traumatisés, à un moment donné, stop, quoi. Parce que c'est pas que ça, il y a aussi des Mozart en prison, hein. Il y a aussi des gens qui font des études et qui s'en sortent. Il y a aussi beaucoup de volonté et de capacité. Et ça, il faut aller en centrale, il faut aller en détention, il faut avoir bien connaître la détention pour ça. Maintenant, il y a beaucoup de cas de gens qui ont des problèmes sociaux et qui rentrent avec leurs problèmes sociaux et qui sortent avec leurs problèmes sociaux. C'est ça la différence qu'il y a entre hier et aujourd'hui. Donc, la conditionnelle et tous les moyens de pouvoir aider socialement les gens, c'est de pouvoir leur apporter du travail, de pouvoir monter des structures qui puissent les accueillir au niveau du logement, au niveau de tout ça. Et ça, c'est le ministère. C'est le ministère. Vous me parliez de Belloubet. Moi, je connais tous les ministres de la justice depuis Badinter.
C'est la garde des sceaux
actuelle. Je veux dire, oui, oui, mais depuis Badinter, je les ai tous vus passer. Tous étaient pleins de projets. J'ai même rencontré Taubira, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit « Vous avez fait 25 ans de prison, c'est extraordinaire, vous êtes bien portant, tout va bien. » Parce que dans son idée, dans son esprit, elle se dit « Le mec qui a fait 25 ans de prison, il est anéanti, il est détruit. » Mais c'est pas vrai. Il y a toujours une chance à la chance. Il y a toujours possibilité de réinsertion. Pas de réinsertion, de retour à la vie. Donc ça, et cette chance-là, elle n'est pas exploitée. Tous les systèmes sociaux, même les mentalités font qu'on est toujours dans une espèce d'assistance. On regarde le détenu d'en haut et on dit, voilà, on va te sortir. Non, c'est pas comme ça. Le détenu, il faut le motiver dès l'incarcération, comme ils le font dans les pays nordiques. Il faut essayer de construire avec lui et de monter les échelons.
Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au-delà de la grande phrase « il a payé sa dette à la société » et le fait que le casier judiciaire reste, le regard de la société reste dur vis-à-vis des détenus qui, justement, c'est devraient évident. Reprendre une place normale, etc.
Deux exemples. Je n'ai pas le droit de vote. D'accord ? Parce que la loi n'est pas rétroactive. Elle a changé, la loi, mais elle n'est pas rétroactive. Donc, je n'ai pas le droit de vote. À vie. C'est pas normal. J'ai payé ma dette. Deuxièmement, quand on se retrouve, par exemple, en société, voilà, je rencontre une jeune fille, je rencontre ses parents. D'accord ? Qu'est-ce que je lui dis ? Je veux dire, je me suis réinséré. Ou pas réinséré. Enfin, je suis dans la vie. Mais quand je vais dire... Bon, écoutez, beau papa, voilà, j'ai fait 25 ans de prison. Boum, terminé. Faut arrêter. La stigmatisation, elle est là tout de suite. Il n'y aura pas. Je dis, mais pourquoi Non. Et au niveau du travail, c'est la même chose.
Oui, on va y venir. L'emploi, c'est un point important.
Je veux dire, le casier judiciaire, le trou béant qu'il y a dans ma vie, je l'explique comment, à part dire la vérité.
À tonton Joey, le taulard ? Mais c'est ton frère, maman.
Ouais, je dois dire que c'est pas tous les jours facile à assumer d'avoir un oncle en prison.
Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mes enfants.
Merde, je vais être en retard.
David, on ne parle pas comme ça.
Hélène.
Sur le lien social, il y avait moi une question qui m'intéressait aussi. Je voulais avoir votre avis sur les détenus et les sortants qui ont une famille, qui ont un cercle sur lequel ils peuvent s'appuyer. Pour une peine moyenne ou une longue peine, comment est-ce qu'on fait pour renouer ce lien familial ? Et est-ce que les proches sont aidés aussi ? Entre guillemets, pour...
Aidé par des institutions ou...
Ah ben en fait, moi, c'est une question...
Qu'est-ce qui existe et, peu importe l'acteur, mais qu'est-ce qui existe pour aider...
Ah, rien.
Rien, en fait. Parce que moi, j'ai plusieurs, là, en ce moment, plusieurs situations, voilà, de personnes qui ont fait quand même pas mal de temps en détention, qui, là, sont en aménagement de peine et vont repartir en famille. Et là, on voit que là, la sortie, au niveau du couple et au niveau de reprendre une place, c'est extrêmement difficile. Là, bon, c'est une sortie qui est récente. Et donc, il est revenu, mais complètement effondré de son week-end, en disant « ma femme, elle a continué à faire ses trucs ». Et lui, il pensait, un petit peu comme dans les films sur la 6, où il allait être accueilli, ça allait être le roi du monde. Et elle a continué, elle a bossé, elle a élevé les deux enfants, elle a fait des parloirs toutes les semaines. Et du coup, quand il est arrivé, là, pour l'instant, il ne retrouve pas sa place. Donc après, c'est des choses que moi, je peux travailler. Du coup, sa femme m'a appelé, donc je discute aussi avec sa femme. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver une structure qui pourrait recevoir la famille et discuter. Et là, je suis en mode recherche parce que il n'y a rien. Parce qu'il y en a aussi qui disent, moi, je ne veux pas voir mes enfants tant que je n'ai pas un travail, que je ne peux pas leur payer des trucs, voilà. Donc ça aussi, c'est comment on reprend des liens et, avec la famille.
Parce que souvent, en tant que père...
Enfin, moi, j'ai que des hommes, donc...
Oui, et puis la population carcérale, voilà. C'est majoritairement des hommes. Mais...
Voilà, souvent aussi, ils sont séparés, donc c'est demander un droit de visite. Donc, on va faire une demande au niveau du juge. Ah non, je ne veux pas voir de juge. Non, mais j'entends tout ça. Après, ça, c'est des choses qui...
Ce qui est normal.
Il faut tout juger. Ce qui est tout à fait entendable. Et là, moi, j'en ai quelques-uns qui... dont un, c'est assez hallucinant, parce qu'il me dit, je suis rentrée, j'étais un enfant, il a fait 22 ans... Et il me dit, donc son fils venait de naître, là il sort au bout de 22 ans et son fils vient d'avoir un enfant. Donc il dit, je suis rentré enfant et là je me retrouve grand-père. Donc c'est comment, il n'a pas été père, comment on devient grand-père. Tout ça c'est des choses qu'on peut parler, on a aussi une psychologue, donc ils peuvent l'avoir quand ils veulent. Voilà. Mais après, sur des structures existantes et tout ça, il n'y a, pas beaucoup d'alternatives.
En général, ça ne tient pas. C'est clair.
La vie,
c'est
net.
Il faut être réaliste. Il y a des parloirs, c'est exceptionnel. Quand une femme, une famille reste soudée après un temps d'incarcération, c'est exceptionnel. Moi, je vais vous dire la vérité. Le type qui sort, qui a vécu 10 ans de parloir, qui ressort, quand il voit sa femme et l'impression d'être au parloir, il se barre. D'accord ? C'est clair, c'est net. C'est la réalité. Et il refait une autre vie. En général, c'est comme ça que ça se passe. Le type, j'en connais plein. Même moi, ça m'est arrivé. Donc voilà, c'est la réalité. Et en général, ça explose.
Ça explose. Ouais, tout à fait. En tout cas, depuis le temps que je fais ce métier, et tous ceux qui sont par exemple en aménagement de peine et qui me disent à la fin de ma peine, j'ai pas besoin qu'on cherche un hébergement, je retourne chez ma femme et tout ça.
Mauvaise idée.
75%, je leur redemande le dernier mois en disant, vous êtes sûr que tout va bien? Et trois semaines avant la levée des trous, ils disent, non, mais là,
faut me trouver
quelque chose parce que je retourne pas là-bas, quoi. En fait, les chemins se sont séparés. Il y a aussi la relation, parce que c'est compliqué, c'est pervers, une relation au parloir. Il y en a un qui sort et qui rentre, et l'autre, il reste enfermé. Et retrouver sa place après. Et c'est vrai que là, je le rejoins parce que au départ, je me dis, c'est bien, ils ont une femme et tout ça. Je ne vais pas chercher un hébergement pour leur sortie d'aménagement de peine.
Alors qu'en fait...
en fait, c'est ce qu'ils cherchent en premier.
On revient, on va rouvrir la parenthèse de celle de l'emploi. C'est une question toute bête, mais est-ce qu'il y a des métiers qui sont interdits aux personnes qui sortent de prison?
En fait, tout ce qui est...
Ça dépend du statut. Réclusionnaire ou prison ferme. Ça dépend.
Donc réclusionnaire, que je comprenne bien ?
Quand on est condamné à de la réclusion criminelle, c'est-à-dire aux assises, on a des interdictions civiques. On ne peut pas faire prof, on ne peut pas rentrer dans la police. Ça, c'est bien, c'est pas mal. On ne peut pas s'occuper d'école, on ne peut pas... il y a des postes qui nous sont interdits, quoi.
Plus d'autres se sont rajoutés, puisque en fait, aussi quand on sort de prison, et voilà, il y en a beaucoup qui disent « je n'ai pas envie d'avoir un patron ». Donc on a eu toute la période VTC. Donc les textes sont passés, donc à partir du moment où on transporte du public et tout ça, eh ben, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Le temps de l'effacement, de toute façon, il ne peut pas se faire pendant que la personne est en aménagement, par exemple chez nous, puisqu'elle est sous étrou, donc on ne peut pas effacer un casier qui, sur une peine qui est en train de... Voilà. Donc tout ce qui est VTC, nous on avait aussi un gros employeur qui était l'aéroport, donc tout ce qui est badgé, c'est mort, ouais. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Je sais qu'il y a, un petit film sur à Saint-Denis, un mec qui avait monté une entreprise. Du coup, c'était des petits camions qui transportaient les personnes handicapées, les personnes âgées et tout ça. Et il s'était fait comme devise de n'embaucher que des personnes qui sortaient de détention. Et là, bah, du coup, les textes sont tombés et du coup, il a dû fermer. Donc voilà. Après, les entreprises, elles font ça aussi un peu de manière cachée, quoi, dans les entretiens, voilà. Alors nous, ce qu'on fait, on a une personne qui est chargée d'emploi et qui est le roi de...
L'embrouille ou...
le roi du CV, pour le roi les trous dans le CV.
Ouais, voilà.
Et alors, comment on fait?
Ah ben, en fait, il y a du travail en détention, mais on peut le renommer autrement. Voilà.
Ouais, restauration.
Restauration à Orléans. Bon, après, il ne faut pas mettre le nez dedans.
Ouais, mais il y a le casier.
Voilà.
Mais non, qu'il fasse une demande au casier.
Non, mais ça, après, c'est sur des boulots qui sont. On ne demande pas forcément le casier.
Ouais, ouais. N'importe quelle entreprise peut demander un extrait de casier judiciaire.
Exactement.
Pas
très certaine que ce soit.
Je ne suis pas sûre. Hein. Alors après, il faudrait.
Un employeur peut demander le casier judiciaire.
Ah, il peut demander à la personne d'amener son casier judiciaire.
Non, il peut demander le casier judiciaire à Nantes. Eh oui. Il peut faire une demande de casier judiciaire à Nantes.
Moi, j'ai un tout petit. Je pense qu'ils peuvent vous demander d'amener votre B3, enfin d'amener votre casier, de faire une demande et d'amener le casier. Si vous l'amenez pas, ce qui est déjà arrivé, j'en ai un qui fait traîner. Bon, de toute façon, ça va finir. Mais après, c'est une question intéressante. Après, il y a certains emplois.
Il faudra poser la question aux auditeurs. S'il y en a un qui a la réponse, qui nous écrivait, il gagnera une réinsertion.
Audio après, tout ce qui est la sécurité.
Oui,
on avait des agents de sécurité, là c'est la préfecture qui fait une demande et voilà, et là c'est mort. Il y en a qui passent à l'AS, mais
de toute façon,
général,
avec Google aujourd'hui, on est tous fichés.
Et là c'est le problème.
Sur le droit à l'oubli.
Sur le droit à l'oubli, là le gros problème c'est Google.
Faites entrer l'accusé, terminé.
Voilà, parce que là en fait, merci Le Parisien parce que c'est souvent lui. Non, mais je dis ça parce que c'est vraiment difficile. Les employeurs, même des associations qui font de l'insertion professionnelle, se mettent à taper le nom des gens qu'on peut leur envoyer sur Google et que non, c'est pas possible. Et qu'après, il n'y a plus de rendez-vous. Ou après, on vous verra plus tard. Ou alors le poste, non, c'est pas possible.
C'est pour ça qu'il faut changer son image sur Internet.
Et là, c'est vraiment une catastrophe parce que là, il y a vraiment tout le monde, hein. Ouais, donc les faits divers du Parisien, s'il vous plaît, ne mettez même pas, non, mais même pas le prénom, quoi. Parce que le prénom est juste la lettre. Enfin, c'est bon, quoi. Ils sont identifiés. Et on voit que même la mission locale ou le pôle emploi, qui devrait être quand même... Enfin, ils n'ont pas à s'intéresser à cette question-là. Ils vous disent, je ne pourrais pas le positionner là. Mais pourquoi? Parce que moi, je ne le dis pas quand je les oriente. Donc voilà, ça, c'est un gros problème, Google.
Je vais d'abord te perdre. Aux yeux de l'opinion publique, ceux que tu aimes te haïront. Je vais faire de toi un monstre sanguinaire.
Et comment?
En commettant en ton nom et avec ton visage les forfaits les plus spectaculaires.
J'avais une dernière question un petit peu là-dessus. C'est tout simplement les interlocuteurs de Pôle emploi, de la CAF, tout ça. Est-ce qu'ils sont coachés en amont? Est-ce qu'ils savent accueillir des gens qui sortent de prison et donc à qui il manque peut-être des années de repères, à qui il manque des années de documentation, et qui repartent de zéro
Alors normalement, en fait, par exemple, sur la mission locale, il doit y avoir une personne spécialisée justice. À Pôle emploi, normalement, il y a un référent justice. Mais bon, voilà. Après, ce n'est pas forcément la personne qui reçoit un entretien. Sachant que de toute façon, votre histoire, elle est connue parce que pour s'inscrire à Pôle emploi, pour ouvrir ses droits à la CAF, pour toutes les démarches, vous devez présenter soit votre billet de sortie, soit votre ordonnance de placement. Donc moi, j'enlève les faits. Mais en tout cas, eux, ils sont au courant. Et même pour la Sécu.
Non, mais je veux dire, ça n'a aucun effet. Mais absolument. Mais ils reçoivent tellement de cassos. que vous arrivez, vous êtes un cassos de plus, quoi. Non, mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, le mec est prisonnier, mais alors, vas-y, l'autre là-bas, c'est un violeur, l'autre, c'est un... Non, mais c'est tellement délirant que... Je veux dire, ils sont pas rodés. Ils sont au combat. Quoi, ouais. Non, mais ils sont au combat tous les jours. Et en plus de ça, ils viennent en prison. Donc, ils viennent, il y a des gens de Pôle emploi qui viennent. Bon, c'est plus en CD et en centrale. Hein, ils viennent, on peut avoir des entretiens, mais je veux dire, ça s'arrête là. Après, c'est toi et ta chance. Je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut créer son boulot, il faut créer sa propre façon, son système de vie. Il faut tout refaire. Tout seul, il n'y a pas de structure qui va vous aider. Moi, toutes les structures que j'ai pu rencontrer, elles ne m'ont pas aidé. Elles m'ont freiné. Parce qu'ils n'ont pas de possibilité de pouvoir vous aider. On est sur une liste d'attente pour avoir le moindre entretien. Il faut se démerder tout seul. Système D. Là, on y arrive. Il faut soi-même avoir cette impulsion. Si on dépend d'institutions... On est mort.
Il faut se prendre, enfin, c'est plus que se prendre en charge. Hein,
c'est... faut tout construire. Moi, je suis parti de rien. Il a fallu que je construise tout, absolument tout, même psychologiquement, parce qu'on n'est pas suivi par un psy hein, quand on sort de prison. Hein. Il n'y a pas de structure qui va nous encadrer, nous passer la pommade. Non, 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 tu te démerdes, parce que les autres avancent. Hein. Toi, si tu n'avances pas, tu es sur le chemin. Moi, je connais des gens qui restent chez eux, qui ne peuvent plus bouger, qui ont fait des années de placard, qui ne bougent pas. Et je vais les voir, je dis, mais sors, essaye de vivre, va manger au resto, va à la mer, va... Non, ils ont peur des gens, ils n'arrivent plus à fonctionner dans la société, c'est ça.
Mais c'est trop de défis. Hein.
Trop de défis. Moi, j'essaye de relever le truc. C'est aussi mon caractère qui veut ça. Ça veut dire que même la prison, elle n'a pas réussi à me casser en deux. Parce que j'étais volontaire, c'est grâce à ça que je suis sorti, pas en bon état, parce que ça fait 10 ans que je suis sorti là. J'ai mis 6-7 ans avant de m'en remettre. Il faut avouer les choses, il faut dire les choses. J'avais encore des problèmes, même de violence, dans ma tête, et qu'il a fallu que j'apprenne à calmer pour ne pas péter un plomb. Parce que quand on se retrouve dans une queue à la boulangerie, qu'il y en a un qui compte ses pièces pendant 2 heures, et qui machin, on a envie de péter une durite. Hein. Non, mais j'ai envie de les secouer. Hein. Non, mais franchement. Ou quand je suis en voiture et que je vois des fatigués. Mais là... Il y a des choses qui remontent et il faut les freiner. Je vais vous dire franchement, j'ai une bête à l'intérieur de moi, je la retiens. Et ça, pendant des années, ça bouffe beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut bien comprendre que la réinsertion, ce n'est pas aussi trouver un travail, un appartement, un machin. Ce n'est pas ça. C'est de la psychologie. La psychologie, elle est là. Ça veut dire que si jamais je pète un plomb, moi, je sais où je vais. Je sais de quoi je suis capable. Il y a tout un phénomène psychologique qui amène à l'échec total de réinsertion oui. Ou de retour à la vie.
Le manque de perspective, le manque de moyens.
Mais oui, je veux dire, moi, je vais vous dire, j'ai aucun avenir. Quand je suis sorti après mes 25 ans de détention, j'avais aucun avenir. Se retrouver, aller dans une usine, que ça soit Renault ou n'importe laquelle, et d'arriver avec mon bagage derrière moi et de dire, voilà, j'ai fait ça, mais personne ne vous prend, personne ne vous parle. Je veux dire, faut bien comprendre que vous êtes un pestiféré.
Qu'est-ce qui a été salutaire pour vous ?
Ce qui a été salutaire, c'est que j'ai eu un enfant, j'en ai eu un deuxième, parce qu'en vérité, j'aime la vie. Ça veut dire que je suis très charnel avec la vie. Ça veut dire que j'aime vraiment être dans la liberté. Ça veut dire la liberté totale. Ça veut dire pouvoir agir. J'étais tellement enfermé, que ce soit l'isolement au quartier ou en centrale, etc., que de pouvoir agir sur ma vie, de décider... de pouvoir sortir même du carcan de voyous dans lequel on m'avait enfermé, dans lequel je me suis enfermé moi-même, de sortir de ça, c'était aussi une évasion. Voilà, parce que c'est une façon de s'évader. C'est aussi, même dans ce système social, je ne fonctionne pas normalement dans ce système social et je ne veux pas fonctionner dans ce système social parce qu'il ne me plaît pas. Je ne vais pas me réinsérer dans quelque chose qui ne me plaît pas. Je veux dire, il n'y a que des moutons. Non, mais il faut arrêter, quoi. Je veux dire, non, mais c'est clair. Ils mangent tous à la même heure. Moi, je vis. J'essaie de vivre. Mais pour ça, il faut trouver, avoir l'intelligence de pouvoir sortir et s'adapter et adapter aussi sa façon et son caractère et sa façon de... C'est ce qu'il y a de plus dur.
C'est un vrai combat, en fait.
C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est pas le fait de faire la prison, etc. Bon, on l'a fait. On est nourri, on est logé. Bon... façon de parler, hein. Je veux dire, il faut aussi se la taper, la prison. Mais la sortie, vivre, prendre en charge et prendre ses responsabilités et vivre parmi les autres à sa manière, à sa façon, s'adapter, c'est ça le plus dur. C'est ça le plus démentiel. Et la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai pu écrire, j'ai pu rencontrer des artistes, j'ai fait plein de choses. Je me suis diversifié dans le cinéma, dans plein de choses qui m'ont permis de pouvoir... Après, j'en ai marre, j'arrête, je fais autre chose. Ouais. Et donc, de pouvoir toujours rebondir pour ne pas être étouffé par la lassitude et une sorte de dépression, parce que c'est la dépression qui vous emmène au fond. Et donc, ça, c'est une force. Bon, j'ai un super entraînement aussi, je veux dire, par rapport aux années que j'ai pu faire. C'est vrai que la capacité de résilience, parce que c'est la résilience, c'est de la résilience, c'est pas autre chose. Et d'ailleurs, moi, je fais des conférences sur la résilience.
La capacité à se remettre de quelque chose.
De quelque chose, d'un traumatisme. Donc, je fais des conférences, je vais dans des écoles où je parle de ça, en fait. De cette résistance qu'il faut avoir et qu'on peut se remettre de tout. Je veux dire, je suis un exemple par rapport à ça. On peut se remettre de tout. Il ne faut pas rentrer dans une espèce de schéma fataliste du détenu. Non. Il faut sortir de ça et trouver les bons exemples au lieu de prendre les mauvais. Il faut prendre les bons exemples de gens qui arrivent à s'en sortir. Et là, on met le système en face de ses responsabilités par rapport à la récidive qu'il y a et par rapport à ceux qui restent et par rapport à ceux qui vont sortir. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des délinquants.
Oh bah non, mais le but de cette émission, justement, c'est de faire un état des lieux de ce qui manque. Hein. J'entends
mais c'était un beau message d'espoir, c'est bien pour terminer ce que vous... sur la résilience et sur le...
Mais on peut y arriver.
Ah mais moi, je confirme. Hein. Bon, là, en fait, moi, je les accompagne un peu quand même. Bon, j'ai eu des périodes un peu moins fastes. Mais là, j'en ai peu qui retournent en détention. Je vois des mecs qui sortent avec un boulot, enfin un emploi, une copine, enfin ou qui retournent en famille. Moi, j'ai plein d'exemples positifs. En fait, moi, pourquoi je continue ? Enfin, parce que c'est de l'échange. Hein. Enfin, moi, j'apprends beaucoup des personnes que je suis et ils me font grandir aussi. Et eux, ils grandissent aussi et on s'accompagne. Enfin, j'ai aussi plein d'anciens. Là, j'ai un ancien. Enfin, j'ai fini de le suivre en 2013. Il est passé me voir. Enfin, il a monté une entreprise. Il a eu un enfant. Et là, il revient 5 ans après pour me dire, bah voilà.
Voilà où j'en suis.
Voilà où j'en suis. Alors, des fois, ils repassent en disant « Putain, j'ai encore reçu une amende. Enfin, il y a machin, ça traîne. » Donc, en fait, ça marche, quoi. Mais en fait, il faut des moyens, mais pas forcément des moyens financiers, il faut des moyens humains. Il faut que, comme le disait Laurent, déjà, il y a des alternatives à l'incarcération. Je suis un peu désolée que dans les textes sur la justice qui ont été votés, quelqu'un qui était primaire, qui n'avait jamais été condamné...
Il faut de l'amour.
Ouais. On pouvait aménager sa peine jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire, si on prenait 2 ans, il pouvait la faire à l'extérieur. Maintenant, c'est 1 an. Donc voilà, on réduit. Donc ça, c'est des gens qui ne vont pas en prison. Il y a les tiges. Il y a aussi des délits. Avant, on n'était pas condamné et il y a des nouveaux délits. Il y a aussi la question des prévenus. Hein, puisque l'incarcération doit être le dernier recours, on pourrait faire sortir déjà plein de prévenus et mettre de l'argent dans les aménagements de peine ou dans les alternatives pour que les choses elles se fassent à l'extérieur.
Et dans les associations, surtout.
Voilà, on enferme. De toute façon, les associations, elles ferment, hein, puisqu'on réduit les lits et voilà. Donc, du coup, on enferme et après, on dit, maintenant, il faut réinsérer. Non, il faut penser les choses autrement. Peut-être faut déjà éviter de mettre en prison. Et de toute façon, la préparation à la sortie, elle se fait dès l'entrée en détention. Et le jour où on comprendra ça, voilà.
C'était le mot de la fin. Comme toutes les émissions où il est question de vie et de trajectoire difficile, celle-ci n'est pas évidente à conclure. Entre le précédent épisode de Juste un droit qui abordait le rôle de la prison et celui-ci, tout ce que je peux espérer, c'est que vous sortez de cette écoute un peu plus au fait de ce qu'est l'univers carcéral et de tous les enjeux qui l'entourent. Nathalie Vallée, Papa Théodorou, je rappelle que vous êtes travailleuse sociale auprès de détenus en aménagement de peine et sortant de détention, mais aussi membre du conseil d'administration de l'OIP, on le redit une dernière fois, l'Observatoire international des prisons. Je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller faire un tour sur oip.org pour qui veut en savoir plus sur les conditions de détention en France. Votre site regorge d'informations, d'infographies et témoignages.
Et on a besoin de soutien.
Et vous avez besoin de soutien. Donc merci beaucoup d'être venu à notre micro. Laurent Jacquat, je me permets de renvoyer, je l'ai fait tout à l'heure, mais vers le TEDx Paris 2015, on parlait tout à l'heure de One Man Show, c'est une conférence d'une quinzaine de minutes où vous expliquez un peu toute votre trajectoire, et je renvoie également vers le morceau Le bout du tunnel du slammer Grand Corps Malade qu'il vous a consacré il y a quelques années. Merci encore d'avoir fait le déplacement depuis Nîmes pour cet enregistrement.
D'ailleurs, si ils veulent des conférences, si quelqu'un est intéressé par les conférences, ils n'ont qu'à faire appel à moi, ils me trouveront sur le net.
C'est noté.
Merci.
Enfin, un grand et dernier remerciement à toi Hélène. Alors que toutes mes pistes, toutes n'ont mené à rien, tu as trouvé nos deux invités et calé cet enregistrement dans un laps de temps ultra court. Merci encore.
Merci.
un témoignage, un commentaire, je réponds à tous les mails envoyés à l'adresse podcast@20minutes.fr. Vous pouvez même me contacter si vous avez besoin d'entrer en contact avec Laurent Jacquin. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vos ouailles et à nous laisser un commentaire sur la page iTunes de Juste un Droit. C'est gratuit et ça m'aidera à passer de bonnes vacances. En parlant de vacances, Juste un Droit se met en retrait de la justice quelques semaines. Je vous donne rendez-vous courant septembre pour un nouvel épisode. Juste un Droit sortira de sa cellule pour s'installer sur les bancs du tribunal et plus précisément aux assises, puisqu'il sera question du rôle des jurés. Passez de bonnes vacances, à dans un mois. Et que justice soit faite.
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Juste un droit. Hey !
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.